France Inter.
Luc Chemla, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Emmanuel Macron fait de nouveau passer un message au sujet de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. Voici les mots du chef de l'État dans un entretien aux Parisiens. Alors pourquoi une telle sortie ? Réponse dès le début de ce journal avec Louise Baudet. La Russie en plein scrutin présidentiel, dernier jour de vote aujourd'hui. Et pas de suspense sur le nom du vainqueur. Rien ne semble pouvoir arrêter Vladimir Poutine. En Isère, deux frères sont poursuivis pour destruction illicite d'espèces protégées. Ils ont tué un aigle menacé de disparition. Et puis dans la page sport, Emma Sarango n'en reviendront sur la victoire à l'arraché du 15 de France hier soir face à l'Angleterre dans le tournoi Destination en rugby. Les Bleus terminent deuxième. La Russie, on sera question justement avec vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Romancier, réalisateur, auteur entre autres de La Chambre des officiers. Il vient de publier L'orgie capitaliste, notre invité. Livre d'entretien où il dévoile sa vision du monde. La société de consommation droguée au numérique, la catastrophe écologique qui menace. Marc Duguin est avec nous pour le grand entretien.
Il parlera également de Vladimir Poutine, qu'il a beaucoup étudié, du régime russe. Vos questions, vos interventions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Ne pas être lâche, rien n'est exclu. Voilà des petites phrases qu'Emmanuel Macron répète depuis plusieurs semaines au sujet d'une éventuelle intervention militaire dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Des déclarations qui ont fait bondir l'opposition et semé le trouble chez nos alliés, notamment allemands. Mais le chef de l'État persiste et signe dans un entretien aux Parisiens publié hier soir. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Luc.
Il l'affirme, si nécessaire, il faudra peut-être passer par une opération militaire au sol.
Eh oui, opération militaire au sol. On le savait, la belle unité entre Européens affichée et vendredi à Berlin ne devait pas faire oublier les divergences de fond. Et bien quelques heures à peine après la photo avec l'Allemand Olaf Scholz et le Polonais Donald Tusk dans l'avion le ramenant de la capitale allemande, Emmanuel Macron réaffirme la position qui a mis le feu aux poudres. Des opérations au sol peut-être nécessaires à un moment donné. L'option divise en Europe et hérisse le chancelier allemand. Certes, Emmanuel Macron ne le souhaite pas et n'en prendra pas l'initiative, mais il tient à cette ambiguïté stratégique qui permet, pense-t-il, de tenir le seul langage que Vladimir Poutine comprend, celui de la force. Or, la force de la France, dit le président français, c'est que nous pouvons le faire. L'Allemagne, elle, a de l'espace budgétaire, elle peut dépenser plus, mais la France a l'arme nucléaire et une armée de métier opérationnelle. Les cultures stratégiques sont différentes, prudence et non-intervention côté allemand, c'est le poids de l'histoire. Mais il n'y a pas, dit le président français, de divergence stratégique, ça n'existe pas. La nuance est subtile, hein, et on va voir dans les jours qui viennent, et notamment à Bruxelles en fin de semaine, s'il n'y a pas de fâcherie entre Berlin et avec Berlin et une parfaite communauté de vues entre européen.
Et Louise, dans cet entretien, Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots à l'égard de Vladimir Poutine.
Et oui, la Russie est une puissance moyenne dotée de l'arme nucléaire, mais dont le PIB est très inférieur à celui des Européens, inférieur à celui de l'Allemagne, de la France, dit Emmanuel Macron. Pas question de se laisser intimider, même si à Moscou, Vladimir Poutine se prépare à un nouveau sacre. Cinquième mandat très probable ce soir à l'issue d'élections présidentielles écrites d'avance et sous haute surveillance.
Louise Baudet de la rédaction internationale de Radio France, une nouvelle sortie pas encore commentée par le Kremlin, alors que les attaques de drones s'enchaînent. La dernière en date, ça a provoqué ces dernières heures un incendie dans une raffinerie dans le sud du pays et a fait un mort, annoncent ce matin des autorités régionales qui accusent l'Ukraine. Cette semaine, les opérations de ce type contre des raffineries et des sites énergétiques se sont multipliées en Russie. L'armée annonce d'ailleurs avoir abattu ces dernières heures 35 drones ukrainiens. Louise, vous en parlez, on est en pleine période d'élection présidentielle russe qui se termine ce soir après 3 jours de vote. Un scrutin, il faut le dire, sans aucun suspense, Sylvain Tronchet.
L'élection présidentielle russe va se terminer ce soir comme elle avait commencé, en l'absence du principal intéressé. Vladimir Poutine a voté par voie électronique, il ne s'est même pas déplacé jusqu'à son bureau de vote. Rien n'est prévu ce soir pour fêter sa victoire annoncée. Il y aura probablement un meeting demain officiellement pour célébrer les 10 ans de l'annexion de la Crimée, où il devrait apparaître quelques minutes comme à son habitude. Le président russe ne cherche même pas à donner l'illusion du moindre suspense, lui qui a toujours considéré le processus électoral comme une bureaucratie coûteuse. Pour son ancien conseiller et scribe Abbas Galiamov, aujourd'hui exilé en Israël, L'essentiel est ailleurs.
Ce que Poutine veut, il l'obtiendra. 70, 80, 90, voire 100%. En réalité, la question est de savoir dans quelle mesure on croira à ce résultat. Les électeurs à l'intérieur du pays, si les Ukrainiens y croiront. L'Europe y croira, l'Amérique y croira, les élites russes y croiront.
Si beaucoup de Russes n'ont guère d'illusions sur le fonctionnement de leur régime, y compris parmi les électeurs de Vladimir Poutine, beaucoup se sont également résignés ou persuadés que repartir avec le même dirigeant était probablement la moins pire des solutions. Beaucoup attendent de voir si cette élection passée, la politique du Kremlin s'infléchira, sans savoir dans quel sens. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Si je ne suis pas élu, ce sera une boucherie dans le pays. Les mots de Donald Trump hier soir lors d'un meeting dans l'Ohio pour la campagne présidentielle. L'homme d'affaires fait référence à la situation économique des États-Unis. Le 5 novembre sera la date la plus importante de notre histoire, a également déclaré le candidat républicain. Lui brigue un troisième mandat. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est officiellement candidat à l'élection présidentielle prévue fin juillet. En poste depuis plus de 10 ans, il a été investi hier soir par son parti. Allons vers une nouvelle victoire, a déclaré le chef d'État. Après les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être chassés du Niger. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey a dénoncé hier avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012. D'après lui, leur présence est illégale.
Il est 8h06 sur France Inter. En France, c'est un travail de l'ombre, pourtant indispensable.
Celui des aides à domicile qui interviennent notamment auprès des seniors et des personnes dépendantes. Une journée nationale leur est dédiée aujourd'hui pour leur donner de la visibilité et mettre en avant ce métier qui permet à de nombreux Français en perte d'autonomie de pouvoir rester chez eux. C'est le cas de cette habitante d'Angoulême que vous avez rencontrée, Pierre Marsat.
Annie Bordron a un grand appartement au premier étage d'une résidence. À 74 ans, elle se déplace en fauteuil. Elle ne pourrait pas vivre seule. Anthony Munch, la seconde, pour presque tout.
Ah, c'est tout faire. Sauf le repassage, mais j'ai ma femme de ménage qui fait le repassage, alors ça va.
Anthony a 15 ans de métier, dont 10 ans à la DMR, la référence du service à la personne. Il est auxiliaire de vie.
Déjà, c'est accompagner la personne âgée dans le geste du quotidien, lui préserver le plus possible son autonomie.
Il vient 3 fois par jour chez Annie, sauf le mercredi.
Le matin, c'est des interventions de 45 minutes, et après, sinon, c'est des interventions de 1 demi-heure pour les repas.
Anthony Munch fait tout chez Annie, la vaisselle, la cuisine, le ménage et surtout la toilette.
J'ai passé 3 semaines, un mois, sans avoir de douche. Il n'y a que Anthony qui me le donne le jeudi.
À force de se voir plusieurs fois par jour, il y a une complicité qui est née entre le bénéficiaire et l'auxiliaire de vie.
Il faut qu'on arrive à mettre un minimum de distance quand même, mais on intervient tellement auprès de la personne pour beaucoup d'actes, même dans l'intimité, que forcément il y a des liens qui se créent.
Anthony Munch est l'un des rares professionnels hommes dans son domaine.
C'est vrai, je crois qu'on est 7 à peu près en Charente. Il y a des personnes qui ont encore des a priori. Moi, je suis déjà arrivé chez une personne qui m'a dit, mais est-ce que vous avez déjà tenu un balai dans votre vie?
Et cette présence au jour le jour permet à Annie Bordron de rester chez elle.
J'ai toujours dit que je n'irais pas en maison de retraite, que je restais chez moi. Alors c'est pour ça que mes enfants ont dit, augmente tes heures si tu veux rester chez toi.
Le reportage de Pierre Marsat de France Bleu La Rochelle. C'est l'espèce d'aigle la plus rare en France. Les pigargues, il n'en reste qu'une 30aine dans le pays. L'un de ses rapaces, Morzine, âgé d'à peine 1 an et reconnaissable à sa queue blanche, a été tué par 2 frères dans la vallée de l'Oisans. Les 2 hommes de 30 et 35 ans ont reconnu les faits en garde à vue et sont actuellement sous contrôle judiciaire en Isère. Ils sont poursuivis pour destruction illicite d'espèces protégées. Alors dans ce genre d'affaires, retrouver les responsables est souvent très compliqué. Mais cette fois, l'enquête est plus facile à mener car l'aigle avait une puce, Morgane Auclin-Refait.
Morzine, les élèves de la commune dont elle porte le nom, la suivaient à la trace grâce à sa balise GPS. Alors quand le signal est devenu statique pendant 3 jours, Sébastien Mollet, patron local de l'Office français de la biodiversité, est allé sur place.
Grâce à la balise, en fait, on avait à la fois un emplacement très précis du cadavre et l'heure à laquelle la bête avait été tuée. Et on a pu récupérer des indices de présence de chasseurs. Par la suite, on a demandé au parquet la possibilité de réquisitionner leur téléphonie.
Les portables des suspects bornent dans le secteur lors du décès de Morzine. Les perquisitions font le reste avec des plumes retrouvées chez eux.
C'est une sale histoire.
Jacques-Olivier Travers, chargé du programme de réintroduction des pigargues, qui a remis Morzine en liberté il y a 6 mois.
Elle a été tuée dans un endroit où il n'y avait aucune raison de la tuer, c'est-à-dire c'est complètement isolé, il n'y a personne, on est à 1700 mètres d'altitude sur une crête, hors saison de chasse. Je ne suis pas un anti-chasse, je n'ai pas de problème avec ça, mais il y a un moment, les chasseurs, là, il faut qu'ils fassent quand même le ménage un peu chez eux. Là, le gars, pour sa défense, il j'ai dit, ouais, j'ai cru que c'était une buse. Enfin, la buse, elle est aussi protégée que l'aigle. Et je pense qu'on sous-estime totalement le nombre d'oiseaux qui se font flinguer.
Sur les 14 pygargues qu'il a relâchés depuis 2 ans, 3 déjà sont morts par balle. Ces plombs qui, selon la Ligue de protection des oiseaux, restent la cause majeure de décès des rapaces qu'il retrouve.
Alors, concernant les deux frères, l'un est poursuivi pour le tir sur morzine, l'autre pour complicité. Ils ont l'interdiction de se rendre dans des zones de chasse et de détenir une arme. En attendant leur jugement, ça sera mi-mai. Ils ont cours jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Un homme d'une quarantaine d'années est mort après avoir été attaqué à l'arme blanche à la sortie d'un supermarché. Ça s'est passé hier soir à Honnay-le-Château dans l'Aveyron. Selon les pompiers, il a été agressé par un automobiliste à qui il venait de faire une remarque. Son épouse est-elle légèrement blessée. Le fils du couple était également présent. Le suspect a lui été interpellé. Quand le tourisme se met au vert, vu le contexte, le respect de l'environnement est devenu une donnée fondamentale pour le secteur. Et ça se sent bien au Salon mondial du tourisme qui a lieu ce week-end à Paris. Près de 400 exposants réunis et des professionnels qui mettent en avant cette ambition écologique au risque de flirter avec le greenwashing, Willy Moreau.
Installé devant une photo géante de végétation luxuriante et d'eau cristalline, Vincent propose des séjours au Blau Hotel, une chaîne basée à Majorque. Il l'assume, l'écologie est devenue un outil marketing aujourd'hui.
Par exemple, nous cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tous les verres en plastique pour l'écologie, quoi. C'est une chose que les demandent les clients, donc au motel, on doit s'adapter. C'est aussi un peu un phénomène de mode en ce moment.
Sur les stands, on voit des labels plus ou moins reconnus. Un croisiériste diffuse une vidéo de recyclage de déchets. Sabrina, en pleine vie, visite ne semble pas très convaincue.
C'est une carte de visite brandie par des gens qui ne sont pas plus écotouristes que n'importe qui d'autre. Pour moi, c'est des grands mots qui sont creux et qui ne veulent rien dire.
Elle envisage des vacances en petits groupes au Pérou où l'on dort chez l'habitant. Ailleurs, on propose des randonnées pédestres, du tourisme à vélo. L'offre environnementale augmente, mais elle n'explose pas selon Marianne Chandernagor, directrice des salons du tourisme et destination nature.
Au niveau de notre clientèle visiteur, un peu moins de 10% d'entre eux vont vraiment en faire un critère de choix de leurs vacances.
Reste aussi la question du prix. Le train peut s'avérer beaucoup plus cher que l'avion. Entre les transports, les déchets, l'hébergement, le tourisme représente 8% des émissions de gaz à effet de serre selon Nature Climate Change.
Le reportage de Willy Moreau pour France Inter.
8h12, le journal des sports. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Emma, on peut parler d'un sacré bouquet final.
À l'image de leur tournoi destination, les Bleus du rugby ont enchaîné haut et bas hier lors de la dernière journée face à l'Angleterre à Lyon, mais pour finalement sortir vainqueur de ce crunch accroché grâce à une pénalité inscrite in extremis par Thomas Ramos. 33-31 donc pour le 15 de France qui termine deuxième de ce tournoi. Et si tous les supporters ont tremblé les premiers week-ends de février, il y a désormais l'espoir d'une deuxième ère. Fabien Galthié, le sélectionneur lui-même, y voit une occasion de rebondir après la désillusion de la Coupe du Monde.
Il se peut que dans cette victoire-là, il y a de l'apprentissage de ce qui s'est passé il y a quelques mois. L'équipe, en tout cas, elle s'est battue. Parfois, c'était complexe. On a payé très cher ses errances. Après le match de nul face à l'Italie, il nous restait ces 2 matchs en 6 jours. Il dit, ces 2 matchs, ils sont pour nous, quoi. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Et les joueurs se sont levés, ils ont dit oui, ils seront pour nous. Donc on a beaucoup appris. On a beaucoup appris sur nous. C'est un beau tournoi. C'est un super tournoi.
Et c'est donc l'Irlande qui est vainqueur de ce tournoi. Les Bleus 2e, l'Angleterre 3e, l'Italie, elle termine 5e devant le Pays de Galles et réalise le meilleur tournoi de son histoire.
L'un des meilleurs footballeurs du monde, 2e du Ballon d'Or la saison dernière, atterrit dans une ville de 60 000 habitants au centre de la France.
Bourges, sa cathédrale, ses marais, son palais et son club de foot qui évolue en 4e division et qui compte désormais parmi ses actionnaires le Sénégalais Sadio Mané, ancienne star de Liverpool qui joue désormais en Arabie Saoudite. Alors Mané ne va pas s'y installer, mais il compte bien s'investir auprès des jeunes de son nouveau club qu'il a rencontré hier pour la première fois, Sylvain Rogy.
Arrivé en jet privé à l'aéroport de Bourges, Sadio Mané est tout sourire. Le projet qui a mûri depuis presque 4 ans se réalise. Sadio Mané a investi à Bourges car il a appris par son entourage que le président du Bourges Foot 18 était sénégalais. Le contact est établi il y a 4 ans et les deux hommes s'entendent à merveille. Le président cher Silla.
Sadio, c'est quelqu'un qui donne beaucoup et qui a envie de redonner au football ce qu'il lui a donné. Et ça, il a commencé par Bourges, mais bien entendu que Sadio, il va aider les jeunes du Sénégal.
Et une académie pourrait voir le jour au Sénégal et les meilleurs espoirs pourraient jouer à Bourges. Sadio Mané, entouré d'une 50aine d'enfants, est aux anges.
Et les enfants, c'est une longue histoire. Moi, je suis quelqu'un qui aime les enfants. Du coup, les voir sourire et courir derrière moi, c'est quelque chose qui me donne un boom au cœur. Donc, pour moi, les voir et essayer de discuter, surtout faire des autographes, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Ilyes n'en revient toujours pas. Il a vu et même touché Sadio Mané.
Depuis tout petit, je rêve de voir des grands joueurs, etc. À Bourges, c'est pas une grande ville. Waouh, vraiment, c'est magique.
La magie de Sadio Mané à Bourges. Et puis Yannick Sinner n'est plus invincible. L'Italien vainqueur de l'Open d'Australie subit son premier revers en 2024, battu en demi-finale du Masters 1000 de tennis d'Indian Wells en Californie par Carlos Alcaraz, qui file donc, lui, en finale, où il affrontera Daniil Medvedev, vainqueur, lui, de l'Américain Tommy Paul.
C'était le journal des sports d'Emma Sarango.
Dans le journal de Luc Chemelin, il est 8h15 sur Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Alors Céline Dacosta, là ce n'est pas un remake, hein. Soleil et ambiance printanière dans le sud.
Oui, c'est ça, entre l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes, on va rester au sec aujourd'hui avec un soleil voilé. On aurait juste un petit peu de grisaille entre la Côte d'Azur et les Côtes Corses et effectivement l'ambiance sera très douce. Une moyenne de 17 à 23 degrés cet après-midi, 23 degrés qu'on retrouvera à Toulouse ou à Auch. On pourrait même atteindre les 25 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques.
Et c'est plus mitigé pour la moitié nord.
Oui, et plutôt nuageux avec une perturbation pluvieuse qui est arrivée cette nuit, qui traverse le nord du pays en ce moment, présente sur un gros quart nord-ouest jusqu'en Île-de-France. Elle concernera surtout le nord de la Seine cet après-midi, le flanc est, le massif central, mais on aura également une deuxième salve d'averse qui arrivera en fin de journée par le Poitou-Charentes. Après le passage de cette perturbation, on retrouvera quand même quelques éclaircies. Pour les températures, très doux aussi sur la moitié nord cet après-midi, 14 à 19 degrés. Ce matin, en revanche, on a un peu de fraîcheur sur la partie est du pays, 4 à 9 degrés, plus doux déjà à l'ouest avec 10 à 17 degrés.
Merci Céline Dacosta. Il est 8h16 sur Inter.